Un rideau se tire. Un rideau se lève. La nuit crépite son vivant quand le petit matin lui dit viens, 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 viens. Éduquer, verbe transitif du latin éducare. Former quelqu'un en développant et en épanouissant sa personnalité. A. Préposition du latin ad, vers. Aller vers, se diriger, se mettre en mouvement dans le rythme de sa vie. Environnement, nom masculin, ce qui entoure de tous côtés, voisinage, environné, de environ, de l'ancien français viron, cercle, rond, autour de. Bienvenue dans la Drôme Nature, l'ADN, chronique drômoise de l'éducation à l'environnement. Depuis la nuit des temps, les grands accompagnent les enfants. Dehors, dedans, des parents, des animatrices, animateurs, éducatrices, éducateurs, accompagnent les plus jeunes au cœur de leurs apprentissages et leur transmettent des connaissances sur leur environnement qui leur permettent de grandir, s'épanouir et s'adapter au fil des changements. Comment éduque-t-on à l'environnement aujourd'hui dans la Drôme? 2000 façons, me diriez-vous, et vous auriez raison. C'est à travers le réseau drômois d'éducation à l'environnement, le RDEE, que je nous emmène découvrir ce monde local qui nous entoure. La raison d'être de ce réseau, soutenu par le Conseil départemental, est de promouvoir l'éducation à l'environnement dans le département de la Drôme. Il a pour objectif la mise en lien, la mutualisation des pratiques et des ressources, la coordination de projets et le partage d'expériences dans le champ de l'éducation à l'environnement à l'échelle départementale. Sans plus attendre, voici donc notre portrait du jour. Alors ce matin, je nous emmène à la ferme des Jerziaises, sur la commune de Château-Double. Un groupe de jeunes adolescents viennent visiter la ferme. Ils vont être encadrés par Audrey de la ferme et Laurence des Sivam Drôme. Donc ce matin, il va être question de découvrir ce qu'est le Sivam de la Drôme. Sivam, structure membre adhérente du réseau drômois d'éducation à l'environnement.
Vous pouvez par ici, vous pouvez écouter. Bonjour à tous, je suis super contente de vous accueillir ici. Je ne vous fais pas la présentation tout de suite parce que là vous étiez attendus. Il y a plein de monde qui vous attendent, il y a 65 individus qui vous attendent. Voilà. C'est nos 65 vaches laitières qui attendaient que vous arriviez pour pouvoir aller au parc. On va pouvoir aller dans le pré se balader. Donc on va tout de suite les sortir. Vous restez derrière le fil là qui est là et moi je vais leur.
Madame, il faut 3 buts.
3 buts, ça va.
Ah, il y a des mouches.
Il y a des mouches. Il y a un bon plat de mouches.
C'est le moment de danser.
Ils viennent d'où, les enfants?
Camille Vernet, à Valence. C'est le collège, c'est les 5e, et c'est pas très loin de Château-Vert, on va dire.
On a fait un petit peu vite parce que les vaches étaient pressées d'aller au pré, vous avez vu. Donc je reprends la visite un petit peu depuis le début pour vous souhaiter quand même la bienvenue ici à Château-Double. et dans notre ferme qui s'appelle la Gersiesse des Combes et où on élève des vaches laitières. Ça, ce sont des vaches laitières, c'est-à-dire qu'on les élève pour leur lait. Il y a d'autres éleveurs qui élèvent les vaches pour la viande. Donc c'est pas du tout le même fonctionnement, c'est pas les mêmes fermes. Donc on a 65 vaches laitières qui produisent du lait qui sont ici. Et pour produire du lait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez qu'elles font du lait juste pour nous parce qu'on a besoin de lait? Elles font du lait pour leur bébé, voilà. Donc pour produire du lait, il faut qu'elles fassent un bébé. Elles ont un veau, à peu près un veau par an chacune. Qui partent à la retraite parce qu'elles sont trop âgées et qu'elles sont plus fécondes quand elles n'arrivent plus à faire de bébé.
Et quand elles vont à la retraite, vous les mettez où?
Alors elles ont un destin un petit peu particulier. On a un circuit de valorisation parce que du coup, nous, c'est notre métier d'élever des vaches. Voilà, on élève des vaches pour travailler, c'est notre travail. Donc quand elles produisent du lait, on vend leur lait. Et quand elles ne produisent pas de lait, on ne peut pas les garder avec nous. Donc la plupart du temps, on a un circuit de valorisation où elles partent à l'abattoir en fait. Et donc on a un atelier de transformation qui fait des steaks hachés surgelés. Voilà. Et donc on vend à nos clients en direct des steaks hachés surgelés qui viennent de notre élevage. Voilà, donc je vous disais qu'on travaille en agriculture biologique. Ça, c'est une des particularités de la ferme. L'autre particularité de la ferme, c'est qu'on élève des vaches de race jersiaise, qu'on trouve quand même pas beaucoup vers chez nous. Et puis, y a une autre particularité de cette ferme, c'est qu'on a la capacité de stocker notre fourrage, donc notre foin, en vrac. Donc ça veut dire pas en botte comme ça, mais un gros tas comme ça. Quand on veut faire une botte de foin, il faut que le foin soit très sec auprès quand on le ramasse.
C'est sec, ça ?
Parce qu'on le compresse dans la botte. Voilà. Oui. Il est très compressé. Et si on met du foin qui n'est pas tout à fait sec, effectivement, ça fermente, ça pourrit à l'intérieur. Donc, c'est pas bon pour les animaux. Et puis, ça peut même aller jusqu'à prendre feu. Donc, il faut vraiment... Ouais, la fermentation, ça chauffe et après, ça peut prendre feu. Il y a plein de bâtiments agricoles qui prennent feu comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut bien s'appliquer, qu'il faut vraiment faire complètement sécher le foin au pré. Ça veut dire que si jamais il y a des orages l'été, ben, il faut faire attention de bien récolter le foin avant l'orage. Et en même temps, il faut que le foin soit sec. Donc nous, là, avec ce système-là, ça a plein d'avantages. Donc, on fait quand même sécher notre foin au pré, mais on a une petite tolérance sur le taux d'humidité, puisque là, il est aéré, il est stocké en vrac. Dessous, il y a des caillebotis, donc c'est des planches de bois ajourées, et une ventilation qui nous permet de terminer le séchage. Donc, l'avantage que ça présente, c'est que du coup, on peut le rentrer plus rapidement si les fenêtres météo de beau temps sont un petit peu courtes. C'est plus souple pour nous. Et puis, ça nous permet de ne pas avoir à le sécher complètement pour le compresser. Quand on compresse des feuilles, quand on a des feuilles très sèches, qu'on les prend dans la main comme ça, qu'est-ce qui se passe? Des feuilles de plantes, qu'on les serre fort dans la main, il se passe quoi? Ça se brise, voilà. Et quand on fait une botte de foin avec du foin très sec, et ben ça brise les plantes. Et c'est un peu dommage, parce que du coup, on perd de la valeur nutritionnelle de nos plantes qu'on s'est appliqué à faire pousser. Du coup, avec ce système-là, on a une valeur nutritionnelle qui est meilleure, on a un fourrage de meilleure qualité pour nos animaux.
Moi, je suis un agneau.
Et là, je vous disais que la machine était branchée sur le circuit de lavage qui lave entièrement tout le circuit du lait deux fois par jour. Là, on débranche ce tuyau, on dévisse la bague qui est ici, et on met le tuyau dans ce grand réservoir qui s'appelle le tank à lait et qui permet de réfrigérer le lait immédiatement pendant la traite. Ensuite, le laitier, donc de la fromagerie de l'Étoile du Vercors, je vous disais, vient tous les deux jours ici, garde le camion là, et branche son tuyau pomper le lait tous les deux jours. Voilà. Moi, quand je veux du lait en fromagerie, donc mon atelier de transformation est juste là derrière. Quand je veux du lait en fromagerie, on l'envoie, on dévie les circuits en fait. Pour pas envoyer le lait ici, mais pour l'envoyer directement là-bas. Donc moi, je le récupère à 35 degrés. Donc c'est super parce que quand je veux faire des yaourts, j'ai besoin de pasteuriser le lait. Donc pour pasteuriser le lait, ça veut dire que je monte à 75 degrés. Je chauffe à 75 degrés, ça me permet de tuer toutes les petites bactéries qui sont naturellement présentes dans le lait. Donc on commercialise du lait cru parce que le lait cru c'est très
très bon à la santé parce qu'il y a une microflore qui est très riche et très bonne pour la santé. Et on commercialise aussi du yaourt. Et pour faire du yaourt, on est obligé de pasteuriser le lait. Quand vous achetez du yaourt, le lait a été pasteurisé. Ça veut dire que toutes les bactéries qui sont naturellement présentes dans le lait ont été tuées par la pasteurisation quand on a chauffé, pour nous permettre d'ensemencer le lait avec des bonnes bactéries qu'on a choisies. Les ferments lactiques qui permettent de faire les yaourts. Je vous dis les noms.
Je pense que vous avez travaillé avec Madame Formazenon sur ce sujet. Peut-être que vous faites du bien avec ce que vous avez fait.
Il n'y en a que deux ferments. Il faudra s'en souvenir alors. Alors, le premier ferment, c'est le Thermophilus streptococcus. Et l'autre, c'est le Lactobacillus bulgaricus.
C'est du latin.
C'est des noms
du latin. Vous avez donc scientifiquement
dangereux.
Les mouches, je vais pas tarder.
Tu pourras mettre inconvénient d'être éleveur, s'habituer aux mouches.
Moi aussi, je suis là, on doit aller voir les taureaux. Bah,
après, c'est pas les taureaux,
mais les taureaux. Ça t'énerve un peu moins.
C'est la même chose.
Non,
tu tombes les mouches. De toute façon, là où il y a des caca d'animaux, il y a des mouches.
Voilà, j'ai pas besoin de les
taureaux. Ils sont là-bas. Des taurillons.
Merci à vous d'être venus.
Bonjour Laurence, est-ce que tu veux bien te présenter et présenter donc le CIVAM ?
Donc je suis Laurence Pénelon, je suis salariée de l'association des CIVAM de la Drôme. CIVAM, ça veut dire, donc c'est C-I-V-A-M, ça veut dire Centre d'initiative et de valorisation pour l'agriculture et le milieu rural. Donc ces lettres ont changé de signification, l'acronyme est resté pareil depuis les années 50. Donc les lettres ont changé d'acronyme, enfin voilà, depuis l'origine, pour se modifier au fur et à mesure de l'évolution du milieu rural et de l'association, qui existe depuis les années 50 au niveau national. C'est une sorte de fédération, entre guillemets, c'est un réseau. Et nous, on est l'association CIVAM Drôme, locale, qui existe à peu près depuis les années 80. Donc, mon métier, c'est animatrice des projets éducatifs au CIVAM. Je laisse la parole à Audrey.
Audrey, bonjour.
Bonjour, donc Audrey Gillos, je suis l'une des trois associées de la ferme La Jersiaise des Combes à Château-Double, où nous élevons des vaches laitières de race jersiaise, et donc nous sommes adhérents du CIVAM.
Donc, les projets du CIVAM, dans les grandes lignes, ils ont évolué avec le temps, mais l'association, quand elle s'est créée, c'était une association d'éducation populaire. La rencontre entre des enseignants, des formateurs et des agriculteurs et des agricultrices qui avaient le souhait de partager leurs connaissances entre eux, de progresser, que ce soit sur des pratiques, il y a eu pas mal de femmes aussi qui se sont formées parce que dans le milieu agricole, les femmes ont eu à gérer pas mal de choses sur les fermes et à monter en compétences sur certains domaines. Mais après, tous les agriculteurs et la famille pouvaient monter en compétences, échanger des pratiques, des techniques. Donc ça, c'est l'origine. Et nous aussi, CIVAM Drôme, actuellement, on est quand même principalement sur des activités de sensibilisation et d'échange avec le public, avec des personnes qui veulent mieux connaître l'agriculture, des choses de l'alimentation. On a moins de projets technico-techniques en agriculture. Et donc, il y a plusieurs projets qui font ça. Donc, Audrey et ses associés participent à plusieurs de ces actions-là.
Oui, alors donc du coup, nous, on bénéficie des actions du CIVAM à différents niveaux. Donc, le premier point pour lequel on s'est rapproché du CIVAM, c'est par rapport à l'organisation de l'événement de ferme en ferme qui nous permet d'accueillir du public dans un cadre structuré et avec une communication globale dans un réseau de fermes, donc en commun avec d'autres agriculteurs, et d'aller à la rencontre du public dans un cadre un petit peu structuré, un petit peu organisé, voilà, avec cet appui-là du CIVAM. Et là, aujourd'hui, du coup, on est avec le CIVAM sur un autre aspect, donc c'est plus par rapport aux enfants et à l'accueil de classe. Donc Laurence organise des visites avec des collèges, donc elle fait l'interface entre le collège, les enseignants et l'organisation de la visite sur la ferme pour nous permettre d'accueillir les élèves et de leur présenter notre métier et puis de faire le lien aussi avec l'alimentation et l'environnement.
Nous, on adhère à deux réseaux. On adhère au réseau de Romois d'éducation à l'environnement et on adhère au Graines Rhône-Alpes, qui est un réseau régional. En fait, parce qu'il y a plein d'enjeux environnementaux dans l'agriculture et dans sa pratique, dans la façon dont on le fait, le réseau des CIVAM, assez tôt, a défendu des valeurs d'agriculture durable. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans ce qu'on défend, dans la charte de l'événement de ferme en ferme, par exemple. C'est une des choses qu'on souhaite faire partager quand on fait cet événement. Il y a forcément des animations et des ateliers, et ça porte forcément sur les choses qui font qu'on considère que l'agriculture peut être durable, ou qu'est-ce qu'on fait dans notre façon de pratiquer le métier, qui fait qu'on pense qu'on va vers quelque chose qui va être plus durable, économiquement, socialement, mais aussi environnementalement. Donc c'est assez naturellement qu'on fait partie de réseaux d'éducation à l'environnement. Localement, il y a aussi un historique de parce qu'on ne pouvait pas faire ces actions tout seul. Il y a beaucoup de choses autour de l'environnement et de l'alimentation. Il se trouve qu'il y avait d'autres acteurs du même territoire que nous. Et nous, on est une petite association, on a 3 personnes en salarié, mais on a 2,5 équivalents temps plein, donc on n'est pas nombreux. Et puis, on se trouvait que c'était intéressant de travailler en complémentarité. Donc au moment, on a adhéré à peu près au réseau de Romois d'éducation à l'environnement, à un moment charnière qui a été un moment où les collectivités aussi locales ont changé de statut, où il y a eu des communautés d'agglomération, de communes qui ont changé de paysage. Et on voyait bien qu'il y avait d'autres acteurs aussi qui travaillaient sur l'éducation à l'alimentation et à l'environnement, et qu'on avait des complémentarités avec d'autres. Donc il y a des projets jardins, on peut les faire avec un maraîcher. Là, on a l'approche du métier, il va leur faire découvrir aussi ce que lui fait. Et il y a des animateurs nature et environnement qui vont avoir une approche différente, ils ne vont pas forcément parler du métier de maraîcher. Disons qu'on peut tous faire des projets de jardin potager, et suivant qui on est, d'où on vient et quelle est notre profession, ça va être différent. On se reconnaît aussi dans les valeurs. Et faire réseau, ça permet aussi d'échanger. Nous, on a trouvé assez intéressant aussi qu'un accompagnateur en montagne, un animateur environnement professionnel, un animateur nature et des agriculteurs puissent se rencontrer dans le même réseau. Tous travaillent avec la nature. Et c'est vrai que pendant longtemps, on se disait nature sauvage, nature cultivée. Enfin, on a tous des métiers en lien avec la nature. Et là, on le voit bien aujourd'hui, on a une classe. C'est presque aussi important le côté sortie dans la nature, l'immersion dans la nature, que ce qu'ils vont apprendre sur le métier d'Audrey, de ses associés, de ce qu'ils vont manger. C'est un tout, c'est pas dissocié. Dans ce qu'Audrey nous a dit ce matin, il y a plein de choses qui sont liées avec les enjeux environnementaux, puisqu'ils baignent dedans, et votre métier, c'est... Enfin, vous faites avec.
Le réchauffement climatique, on le subit et on compose avec chaque jour depuis bien longtemps déjà. Et on essaye d'inventer des solutions pour l'avenir. On n'a pas tout trouvé encore, mais voilà, on y réfléchit.
Vous pouvez nous citer quelques exemples sur lesquels vous travaillez?
Alors du coup, la problématique principale pour nous, c'est l'alimentation de notre bétail, de notre troupeau. Donc nous, sur la ferme, on est autonome alimentairement, on y tient. Et du coup, quand la météo n'est pas favorable, c'est-à-dire qu'il manque de pluie et que la terre est trop sèche, l'herbe ne pousse pas et on ne peut pas récolter suffisamment de nourriture pour nos animaux. Donc on a différentes stratégies pour y pallier, vu qu'on n'a pas la capacité et pas la volonté d'augmenter la surface que l'on exploite. On va plutôt jouer sur la quantité, si on peut, sur la quantité récoltée, et si à défaut, sur le nombre d'animaux à nourrir. Donc les années où on a trop peu d'aliments récoltés, on fait le choix de vendre des animaux pour avoir suffisamment de nourriture pour nourrir toutes les bouches présentes sur la ferme. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, quand je me suis installée moi en 2021, on a essayé de développer une stratégie de commercialisation un petit peu accentuée pour augmenter la part de vente directe dans notre activité. C'est-à-dire que la majeure partie du lait est vendue dans une laiterie. Et une petite partie est transformée à la ferme et vendue en direct aux consommateurs. Donc, ce qui nous permet d'avoir une meilleure valorisation de notre production, donc une meilleure rentabilité qui nécessite du travail, de l'organisation, plein de choses à mettre en place. Donc on a décidé d'essayer d'augmenter la part du volume de lait transformé dans la production, et ce qui à terme devrait pouvoir nous permettre également de réduire le nombre d'animaux présents sur la ferme, le nombre de vaches à la traite, donc d'avoir moins d'animaux pour la même surface cultivée. Ensuite, eh bien, sur les espèces cultivées, on fait un tout petit peu de maïs, on a 5% de maïs dans la ration d'hiver seulement, mais pour l'instant, techniquement, on ne sait pas s'en passer au niveau de la valeur nutritionnelle dont ont besoin les vaches pour être en forme et pour produire du lait. Le maïs, c'est une plante qu'il faut irriguer, donc les années de sécheresse, c'est compliqué et ce n'est pas satisfaisant. Il faut encore plus irriguer, donc on réfléchit à d'autres plantes. On n'a pas trouvé encore quelles plantes pouvaient se substituer au maïs. Et puis cette problématique s'étend maintenant au fourrage, puisqu'on cultive beaucoup de luzerne. La luzerne est une légumineuse qui est super intéressante voilà, par rapport à ce qu'elle apporte à l'environnement et à l'azote qu'elle capte dans l'air pour la restituer au sol. On l'implante pour 5 ans, ça fonctionne bien. Normalement, c'est une plante qui est plutôt autonome. Avec le réchauffement climatique, elle a quand même besoin d'eau. Et on en vient à devoir arroser la luzerne, arroser le fourrage. Donc ça, c'est un petit peu... C'est une vraie problématique aussi, et la luzerne, c'est un élément essentiel également de la ration alimentaire des vaches. Donc. Et puis après, c'est des réflexions au quotidien sur notre consommation d'eau. Est-ce que pour l'instant, ça n'a pas été mis en place, mais est-ce qu'un jour, on pourra récupérer les eaux qu'on utilise pour le lavage du matériel en fromagerie, pour ensuite aller laver les tracteurs ou laver la salle de traite?
Il y a plein de thèmes environnementaux. Là, cette visite, on l'a fait de cette façon-là, avec des élèves de cet âge-là, parce que les enseignants nous ont posé telle et telle question. Mais je suis sûre qu'avec Audrey, enfin, dans la préparation, ils auraient très bien pu nous demander plus justement le thème du développement durable ou le thème de l'eau. On pourrait faire une visite quasiment... On ne pourrait pas ne pas parler des animaux, mais quasiment que sur le circuit de l'eau et comment on fait sur la ferme. On peut aborder tout un tas de sujets assez globaux justement sur l'environnement. Il y en a qui nous demandent l'impact que ça peut avoir, je ne sais pas, un élevage sur les ressources en eau. Quel impact de la ressource en eau sur leur culture? Enfin, on peut aborder tout un tas de sujets très variés. Et suivant le professeur qui nous demande, là c'est un professeur de sciences et vie et de la terre. Et la demande du professeur, c'était de travailler particulièrement sur des choses pour l'alimentation qui impliquent qu'il y ait des micro-organismes.
Ouais, les micro-organismes qui sont également présents dans le lait cru.
Au CIVAM, vous êtes en lien avec combien de fermes? Comment ça s'organise?
On est en lien avec plus de fermes qu'on a d'adhérents, mais on a... Alors ça dépend des années, mais cette année on a environ 90 adhérents. Il se trouve que ce sont que des agriculteurs. À part, non, on a deux structures qui ne sont pas des agriculteurs. Mais... peuvent adhérer aussi des individuels, s'ils le souhaitaient. Les agriculteurs restent majoritaires dans le conseil d'administration, de par nos statuts, mais d'autres peuvent venir. On est en lien avec ces agriculteurs-là, puis avec des nouveaux aussi, avec d'autres qui sont sur le territoire, et on apprend à se connaître. Comment on fait le lien? Après, c'est par bouche à oreille, entre eux. On communique aussi vers l'extérieur. En fait, on fait des projets avec des collectivités. Là, par exemple, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est financé par le département. Et des fois, il y a des demandes spécifiques. Par exemple, d'aller voir une pisciculture. Alors, il n'y en a pas parmi nos adhérents. Et bien, sur un territoire, on va aller voir par des contacts. On est dans beaucoup de réseaux, en fait. Quand on nous parle de réseau, pour qu'on adhère à un réseau, en fait, globalement, on a des réseaux informels, formels, des réseaux d'associations de différents thèmes. Et bien, on va aller les rencontrer, on va aller sur le terrain. Et puis, des gens locaux vont nous dire, bah, tiens, il y en a un pisciculteur là qui bosse comme ça, et voilà. Moi, je vais aller les rencontrer, on va voir ensemble si c'est possible, est-ce qu'ils ont l'habitude d'accueillir du public, est-ce que ça les tenterait. Et on voit comment on va travailler en tandem. Donc, il y a une relation à créer. Et après, suivant ce qu'on fait ensemble, si les missions de ce qu'on fait, ça leur plaît, ils peuvent adhérer et aller un peu plus loin. Il y en a qui commencent par accueillir à la ferme ou par de ferme en ferme, et puis après faire d'autres choses. Il y en a qui vont peut-être créer un groupe de travail sur un sujet spécifique, ils vont peut-être faire des propositions à la prochaine AG. Voilà, en ce moment, on est assez préoccupé par le thème de la transmission des fermes. Ça, c'est un sujet aussi qui... Nous ne sommes pas la seule association à travailler ensemble. On est tout un réseau d'associations d'agriculteurs à essayer de voir comment on va pouvoir faire sur cette question épineuse. Il commence à manquer de repreneurs et de transmission des fermes, des plus anciens aux plus jeunes. On essaie de voir comment on peut contribuer à aider, à favoriser ça.
Vous avez une notion des causes ?
Elles sont multiples, en fait.
C'est sociétal, je pense. D'une part, on s'éloigne quand même du monde rural. La société est quand même un peu, par ses fonctionnements, éloignée de ça. C'est aussi au niveau de la société, par rapport au rythme de vie et aux exigences personnelles qu'on a tous, voilà, de travailler moins, d'avoir plus de temps libre. Donc, le métier d'agriculteur ne répond pas à ce besoin-là. Et puis c'est quelque chose qui s'est fait au fil du temps. Il y a 40 ans ou 50 ans, les gens avaient tous un lien à la terre quelque part dans leur famille, et plus ça va, moins il y a d'agriculteurs, et plus ça va, plus il y a de gens qui n'ont plus de lien et qui du coup savent pas ce que c'est non plus, et du coup moins d'attirance pour ça aussi. Et puis après il y a des raisons économiques, c'est-à-dire que le métier d'agriculteur, c'est quand même pas la meilleure façon de s'enrichir, alors que d'acheter une ferme, et ben, ça coûte cher. Voilà, donc ça demande des investissements, forcément.
Là, en ce moment, j'entends aussi parler de financièrement aussi d'arriver à se loger. Quand on arrive en plus à trouver le terrain, en plus c'est d'arriver à se loger, parce que il y a des fois la transmission de l'outil de travail, mais pas de l'habitat. Donc des fois, ça devient cher d'habiter à côté de son terrain. Puis des fois, on a fait des grosses fermes. Et les agriculteurs qui s'installent, ils ont envie des fois de s'installer sur des petites surfaces, plus petites. Et des fois, il y a une inadéquation entre la personne qui vend et la personne qui rachète. Donc des fois, par exemple, le réseau des CIVAM travaille avec d'autres structures pour voir des exemples de projets où il y avait une grande ferme et comment on peut installer plusieurs personnes. Ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui choisissent d'accueillir comme Audrey, il y a toujours une forte envie de on parlait de transmission de ferme, mais tous ceux qui font le choix de me dire oui, ok, venez sur ma ferme, il y a une très forte envie de transmettre justement. Alors je sais pas ce qui toi t'a poussé à accueillir, mais c'est vraiment, souvent c'est une envie de transmission.
C'est le partage, et puis enfin moi ce qui me plaît aussi dans le milieu agricole, c'est le rapport à l'alimentation. C'est vraiment ça, en fait, la base, je pense, de ce qui me parle le plus, c'est de nourrir. Et du coup, de nourrir et d'informer, de partager, de dire, voilà, ce que tu manges, ça vient de là, et c'est comme ça, et c'est la nature, et de reboucler, et d'en plus donner l'information, c'est ce qui me paraît aussi pertinent. Et effectivement, après, des jeunes qui ont eu cette approche-là, s'ils ont une sensibilité un jour, s'ils ont une sensibilité à cet environnement-là, en ayant été informés, en ayant eu un peu de contact avec cet univers-là, ça, je pense que ça peut peut-être faire naître des vocations un jour. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être qu'à terme, ça peut.
Ça sème des graines.
Ça sème des graines, voilà.
C'est ça, on sème.
Est-ce que vous auriez un petit message, un message à donner peut-être aux jeunes générations, Là, aujourd'hui, dans cette dynamique dont on parlait tout à l'heure, là, cette accélération, ce grand changement climatique, les enjeux sociétaux, comment on peut donner envie de construire et d'imaginer un futur désirable, quel message on peut donner aux jeunes générations pour aller vers ça, avec joie.
Avec joie, moi, je reviens à mon histoire d'alimentation parce que je trouve que c'est la source de plaisir la plus simple et la plus accessible à tous et la plus quotidienne. Donc, on se fait quand même plaisir en mangeant. Souvent, il y a plein de façons de se faire plaisir en mangeant. Et c'est peut-être la première chose, c'est de se poser la question quand on mange, est-ce que c'est bon ? D'où ça vient ? Comment c'est fait ? Quand on se pose la question, après, déjà, je pense qu'il y a des réponses intéressantes et une porte d'entrée.
Et moi, je dirais quelque chose que je leur dis quasiment toute la saison des visites de ferme, c'est soyez curieux, posez-vous des questions, enfin curieux dans le sens regardez autour de vous, allez voir, alors c'est bien avec vos familles, avec là, l'école, regardez autour de vous ce qui se passe et soyez curieux, n'hésitez pas à aller poser des questions, à aller rencontrer, à observer ce qui se passe autour de vous, et voilà, et de se poser des questions, en se posant des questions et en allant chercher, en allant creuser, on va faire des rencontres, on va tisser des liens et on va trouver pas de solution toute faite, mais du coup on va se poser des questions et du coup on va avoir envie de changer des choses, mais on va forcément trouver des solutions qui nous vont à nous en allant à la rencontre des autres et en regardant ce qui se passe autour de nous. Voilà.
Merci Laurence, merci Audrey.
Merci. Seeds of love, the seeds of letters, seeds of rust, and leaves and flowers, seeds of rain. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of grace. Seeds of peaches, seeds of beacon, seeds of peace, and seeds of hope. Seeds of pace, pine, and pepper, seeds of glory, seeds of gold. How can you sell? How can you spoil them? How can you trade them? How can you grow? Seeds of sorrow, seeds of terror, landscape, seeds of devastated corn, seeds of stray. Seeds of misery, seeds of mud and melancholy, seeds of watermelon, seeds of waste. Seeds of silence, seeds of slumber, seeds of hunger, seeds of straw. Seeds of underneath the summer lies and then seeds of cold. How can you buy them? How can you sell them? How can you trade them? How can you do so?
C'était l'ADN, émission pour le réseau de Romois d'éducation à l'environnement, par Magali Gray.